Le 13-14, Marion Lourd.
Bonjour à tous, bienvenue dans le 13-14. Ravi de vous retrouver à la une aujourd'hui. La capitale canadienne paralysée par les opposants aux contraintes sanitaires, le mouvement peut-il s'étendre en France? La question se pose alors que des milliers d'opposants au pass vaccinal se mobilisent chez nous sur Internet. Nous ferons le point dans ce journal sur ceux qui se sont autoproclamés convoi de la liberté. Emmanuel Macron rencontre le président ukrainien aujourd'hui. Nouvelle tentative pour éviter l'escalade face à la crainte d'invasion russe. Nous serons dans quelques minutes avec notre envoyé spécial en Ukraine. Nous essaierons de voir aussi ce que le président a obtenu ou non lors de son entretien hier avec le chef d'État russe Vladimir Poutine. Dans le journal aussi, un petit miracle. Des paraplégiques capables de remarcher et même de nager grâce à des impulsions électriques. Nous en parlerons avec l'un des chercheurs à l'origine de l'essai. Figurez-vous que c'est un Français. Dans l'actualité aussi, l'essence bat de nouveaux records. Illustration en Bretagne. La première médaille d'or française aux JO. Nous serons à Pékin pour célébrer Quentin Fillon-Maillet en biathlon individuel.
Beaucoup d'épreuves traversées, beaucoup de travail. C'est incroyable, c'est un rêve qui se réalise. Donc c'est dingue ce qui se passe en ce moment. Et les émotions sont fortes.
Quand les larmes interrompent le propos, récit de cette performance à suivre à la fin du journal. Dans cette édition aussi, Christiane Taubira mise sur l'écologie et les écologistes pour relancer sa campagne. La campagne présidentielle où la question du temps de travail fait son retour, relancée notamment par le patron de Total Energy. Faut-il passer à la semaine de 4 jours? C'est la question. Le centre des jeunes dirigeants y est favorable. On en parle avec son vice-président. Vos questions 01 45 24 7000. Et puis dans votre chronique, c'est une chanson de l'énergie pure. Don't Stop Me Now de Queen. Il paraît que c'est le morceau qui donne le plus la pêche. On verra. Le 13-14, vous avez le programme. C'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Quand le Premier ministre est obligé d'intervenir pour tenter de débloquer sa capitale, Justin Trudeau demande aujourd'hui aux routiers installés dans le centre-ville d'Ottawa au Canada de lever leur siège. Une semaine installée dans le froid au son des klaxons pour dénoncer les contraintes sanitaires, état d'urgence déclaré, un médiateur est en route. Steve a fait 4 heures de route le week-end dernier pour rejoindre le mouvement. Objectif selon lui, non pas contester le vaccin anti-Covid, mais revendiquer sa liberté.
Cette liberté n'a rien à voir avec le fait d'être vacciné ou non. Ils sont ici pour dire, les entreprises devraient pouvoir choisir, vous devriez pouvoir choisir, je devrais pouvoir choisir. Nous devrions tous pouvoir choisir notre propre niveau de protection. C'est ce qu'ils demandent, c'est ça et c'est tout. Alors les camionneurs n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, mais ils changent la vie des gens. D'autres convois ont commencé à travers le monde. Ces camionneurs ici même au Canada ont ouvert la voie et ils sont les seuls à ne pas être entendus. Quelque chose va se passer, qu'ils parviennent ou non à un accord. Il faudra qu'il y ait un accord parce que les camionneurs sont déterminés. Ils restent. Ces camionneurs ont des enfants avec eux. Ils ont leurs femmes avec eux. Ils ne veulent pas se battre. Ils veulent juste être entendus.
Steve au micro de Sébastien Paour, envoyé spécial de France Inter au Canada. Et alors que les hospitalisations pour Covid augmentent en France, 33 447 patients Covid à l'hôpital, plus d'un millier supplémentaires par rapport à la semaine dernière, les autoproclamés convois de la liberté opposés au pass vaccinal pourraient bien s'importer chez nous. Des milliers de militants appellent à une action d'ampleur. Plusieurs quitteront demain au covoiturage Bayonne, Nice, Strasbourg ou Cherbourg. Direction Paris, Delphine Evenou, qui sont ces internautes qui se mobilisent? Et peut-on attendre un mouvement d'ampleur comme au Canada?
Sur le réseau social Facebook ou sur la messagerie cryptée Telegram, ils sont plusieurs milliers avec une organisation déjà bien avancée, des cartes interactives avec des trajets par code couleur, des points de ralliement, trajets sur le réseau secondaire vers Paris, arrivée prévue dimanche, puis Bruxelles le lendemain, et une organisation locale par secteur. Sylvain Desrochettes, auto-entrepreneur très engagé contre le pass vaccinal de gauche, précise-t-il, a créé il y a une semaine l'une des pages Facebook Convoi de la liberté.
Il y a des gens qui vont faire seulement un petit bout du trajet. Il y a des gens qui participent pas, mais qui vont apporter du ravitaillement en cours de route. Il y a des gens qui vont apporter des hébergements sur Paris. Chacun participe selon sa possibilité. L'idée, c'est d'y aller de manière sereine, de dire coucou, on est là, d'engager un dialogue social. Et on espère qu'en passant par la manifestation, il y aura une prise en compte, puisqu'elle n'a pas été le cas auparavant.
Dans les groupes et messageries, on débat restrictions sanitaires et coût de la vie, les deux principales revendications. Avec des messages très hétérogènes, de tous bords, souvent pacifistes, parfois bien moins. Quant à l'ampleur que prendra le mouvement, tout comme avec les gilets jaunes il y a 3 ans, il faudra attendre de voir la concrétisation de ce qui se joue en ce moment sur Internet.
portrait de ces antipasses qui veulent rouler vers la capitale à lire aussi sur notre site internet franceinter.fr. Près de 37 millions de Français à ce jour ont reçu leur dose de rappel de vaccin anti-Covid. Au chapitre santé et recherche, cette fois, une avancée qui pourrait changer la vie de dizaines de milliers de Français atteints de paraplégie. La science pourrait leur permettre de remarcher. Un petit miracle qui nous vient de Suisse, où une équipe dont un chercheur français a permis à 3 personnes de se mouvoir grâce à la stimulation électrique de leur moelle épinière. Ce chercheur français, c'est Grégoire Courtine, neuroscientifique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Il est avec nous dans ce journal. Bonjour.
Bonjour.
Grégoire Courtine, jusqu'ici la stimulation électrique permettait déjà de remarcher, mais avec beaucoup d'entraînement. La nouveauté de votre démarche, c'est la rapidité en fait, avec laquelle les patients peuvent retrouver leurs facultés.
Oui, exactement. Jusqu'à présent, tous les groupes de recherche, y compris le nôtre, avaient utilisé une technologie de stimulation qui avait été originellement développée pour traiter la douleur, donc beaucoup moins précise. Aujourd'hui, pour la première fois, on a développé une technologie qui vraiment est focalisé pour rétablir le mouvement après une paralysie, d'où ses effets très rapides et encore plus prononcés.
Et combien de patients sont implantés aujourd'hui dans le cadre de votre essai ? Et est-ce que tous peuvent remarcher ?
Alors, en tout, on a 9 patients qui ont été implantés, 3 avec cette nouvelle technologie. Tous ont répondu de manière positive à la stimulation et après l'entraînement, ont récupéré de différents degrés suivant la sévérité de la lésion.
Oui, et la stimulation doit être permanente pour pouvoir continuer à se mouvoir, en fait ?
Oui, effectivement, c'est un point très important. Donc, on a des participants qui avaient des lésions dites incomplètes de la moelle épinière, donc des gens qui ne pouvaient pas marcher, mais qui avaient clairement des fibres résiduelles, et des patients avec des lésions complètes de la moelle épinière. Aucune sensation, aucun mouvement. Ceux qui ont des lésions incomplètes ont pu récupérer, après cet entraînement, des mouvements volontaires sans la stimulation, donc une vraie récupération neurologique qui suggère que les nerfs repoussent, alors que ceux qui avaient une lésion complète, eux, sont dépendants de la stimulation pour avoir des mouvements.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est que cette technique peut conduire à une guérison complète, entre guillemets, en tout cas si les lésions sont récentes.
Ce fut une grande surprise pour nous, effectivement, surtout que ces essais cliniques ont été menés sur des patients qui ont des lésions dites chroniques, c'est-à-dire qu'ils ont eu leurs lésions il y a de nombreuses années. On ne s'attendait pas à de telles récupérations. Et pourtant, on l'a observé de manière encore plus importante que celle qu'on avait vue sur des modèles animaux, suggérant que la moelle épinière humaine pourrait répondre d'une manière surprenante à ces protocoles de stimulation.
Et Grégoire Courtine, est-ce qu'il y a des patients, alors vous me dites il faut effectivement que la lésion soit récente, est-ce qu'il y a des profils de patients sur lesquels la technique que vous utilisez, les électrodes, est plus efficace ?
Alors bien sûr, il faut bien calibrer les attentes, c'est pas un miracle, loin de là, c'est quand même un protocole, une thérapie qui demande beaucoup d'entraînement. Nos participants, tous les jours, s'entraînent 1 heure ou 2, 4 à 5 fois par jour. Et après de nombreux mois d'entraînement, récupèrent la capacité à tenir debout, à marcher quand la stimulation est allumée. Donc, c'est sûr que des patients qui n'ont pas la motivation pour s'investir dans ce traitement, ce serait quand même beaucoup plus difficile d'imaginer une vraie récupération qui puisse les aider dans leur vie quotidienne.
Mais pour certains, ils pourront peut-être retrouver une vie normale.
Alors, une vie normale, ce serait exagéré, mais maintenant, je pense qu'on a accumulé assez d'évidence pour assurer que cette stimulation pourra soutenir des patients dans certaines activités de la vie quotidienne, les faire se sentir mieux, généralement dans leur corps. Nos participants nous disent qu'ils n'ont plus de mal de dos, il y a beaucoup d'aspects généraux de leur vie qui sont améliorés grâce au fait qu'ils puissent sortir de cette chaise roulante. Et puis, dans certains cas, par exemple, on a Michel, le dernier participant, qui peut, lui, pendant 2 heures être debout. Donc, il fait même ses meetings avec ses partenaires en business debout. Comme ça, il a la même hauteur que ses interlocuteurs et ça lui change vraiment la vie au quotidien.
Quelle est la prochaine étape pour vous et votre équipe à Lausanne ?
Alors, pour l'instant, c'était un effort essentiellement académique. Notre but, c'est d'en faire une thérapie pour tous, disponible à travers le monde entier. Et pour ça, on a créé une compagnie qui s'appelle Onward, qui maintenant est en bourse, en fait, et qui développe une technologie vraiment optimisée pour les patients à travers le monde entier. Ça va prendre encore 3 à 4 années. Il va falloir la valider avec environ 100 de participants. Mais on espère qu'on va réussir et que bientôt, on pourra affirmer que cette thérapie peut être disponible pour chacun.
Donc, des paraplégiques français pourraient avoir accès à cette technologie d'ici 4, 5, 6 ans.
Absolument, et même un peu avant, dans le cadre de l'essai clinique qu'on va mettre en place, on parle avec de nombreux partenaires, y compris en France, pour qu'ils puissent participer à l'essai clinique de large envergure qui aura lieu et en Europe et aux États-Unis.
Grégoire Courtine, neuroscientifique à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, merci de nous avoir répondu sur France Inter. Les maisons de retraite Orpea, à nouveau visées par une plainte, selon nos confrères de France Info, deux aides-soignantes accusent le groupe de faux et usage de faux. Ils auraient utilisé leur nom pour multiplier les embauches abusives en CDD en faisant mine de les utiliser, ces CDD pour remplacer les salariés permanentes, prétendument en contrat à durée indéterminée pendant leur congé. L'entreprise assure de son côté n'avoir jamais fait usage d'emplois fictifs ni de faux contrats de travail. Sur fond de manque de main-d'œuvre, le groupe Amazon double ses salaires de base aux États-Unis pour ses employés de bureau et ses ingénieurs, de 140 000 euros annuels à plus de 300 000, façon de rivaliser avec les autres géants des GAFA. Amazon qui annonce aussi avoir embauché plus que prévu en France l'an dernier, 4 000 personnes en tout. La société prévoit 3 000 postes supplémentaires dans l'Hexagone pour cette année. Il faut réindustrialiser rapidement et massivement notre pays. La réaction du ministre de l'économie, invité de France Inter ce matin, à l'annonce du pire déficit commercial de l'histoire pour notre pays l'an dernier, près de 85 milliards d'euros. Bruno Le Maire rappelle aussi les mesures mises en place par le gouvernement, formation, baisse des impôts de production. Il dit espérer une baisse de l'inflation à la fin de l'année et pointe notamment pour expliquer le déficit, les prix élevés de l'énergie. L'énergie chère à la pompe aussi, prix record pour le carburant depuis 7 ans. Au dernier pointage, la semaine dernière, les prix ont encore grimpé entre 1,3 et 1,5 centimes le litre, soit un litre de sans-plomb en moyenne à 1,73€, 1,69€ pour le gazole. Mais ça peut être beaucoup plus cher selon les situations. Exemple à l'île d'Ouessant, à la station la plus onéreuse de toute la Bretagne. Vous l'avez constaté, Nicolas Olivier.
2,20€ le litre de sans-plomb, 2,08€ pour le gasoil. On n'est pas loin des records.
Non, il y a des endroits qui sont plus chers.
Bon, c'est vrai, il y a des stations plus chères dans Paris. Mais tout de même, ça pique. Le garagiste de l'île, Dominique Kérébel, en est bien conscient. Mais il n'a pas le choix.
Le coût de l'essence, ouais, on a pris plus de 3000 euros en 3 mois d'augmentation sur le plein de 9600 litres. Donc ouais, c'est compliqué.
C'est bon !
C'est le coût du transport du carburant depuis le continent qui alourdit la facture. D'autant que ce petit garage ne peut pas jouer sur les quantités.
Comme je dis toujours, on n'achète pas le même prix un paquet de pâtes que 10 000 paquets de pâtes.
Évidemment, les habitants sont bien obligés de payer pour utiliser leur voiture.
Après, je calcule pas.
Cette cliente garde le sourire.
Nous, on ne peut pas comparer, on ne peut pas aller à une autre pompe, donc voilà.
Tu peux, il faut prendre le bateau.
Oui, voilà, c'est ça.
L'île est très petite, donc il ne consomme pas tant que ça.
Difficile en effet de comparer avec le continent. Ici, les automobilistes roulent peu, personne ne fait le plein, ou alors il dure plusieurs mois. Alors le budget carburant des Ouessantins n'est pas encore un sujet de polémique.
Bonne journée, merci, au revoir.
Allez, à ce prix, il y a quand même un bon côté, c'est le garagiste qui fait le service. Reportage de France Bleu Brésisel. Au chapitre énergie encore, EDF va arrêter 3 réacteurs supplémentaires pour des contrôles suite à des problèmes de corrosion sur des systèmes de sécurité. Cela pourrait compliquer la situation pour notre approvisionnement électrique. Va-t-il être question ce matin, dès aujourd'hui, d'énergie et notamment du gazoduc Nord Stream 2 construit par Gazprom entre la Russie et l'Allemagne en contournant l'Ukraine? En tout cas, le président français Emmanuel Macron est au palais Marinsky en ce moment même à Kiev pour rencontrer son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky sur fond de tensions à la frontière du pays où campent plus de 100 000 soldats russes. Vous suivez pour nous le déplacement d'Emmanuel Macron. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Vous avez pu vous entretenir longuement avec le chef de l'État à bord de l'avion présidentiel. De quoi les deux présidents vont-ils parler aujourd'hui ?
Eh bien, Emmanuel Macron arrive ainsi comme un intermédiaire puisque les présidents russes et ukrainiens ne se parlent plus. Son objectif ultime serait de les réunir à Paris pour un sommet format Normandie dans quelques semaines. Mais Vladimir Poutine a posé hier ses conditions. Volodymyr Zelensky va-t-il les accepter? Le président français salue en tout cas son attitude dans la crise.
Aujourd'hui, le président Zelensky est le président d'un pays aux frontières desquelles il y a 125 000 soldats russes. Oserais-je dire, ça rend nerveux. Je trouve que dans le concert des commentaires politiques internationaux, le président Zelensky fait partie de celles et ceux qui ont un grand sang-froid, qu'il faut saluer.
Pour avancer vers une désescalade, Emmanuel Macron aimerait sortir du pour ou contre l'OTAN, assurer autrement la sécurité de l'Ukraine, poser un nouveau cadre, un défi immense.
Et vous le disiez, Maxence, hier, Emmanuel Macron rencontrait Vladimir Poutine à Moscou, entretien extrêmement distancié. On a vu l'immense table en marbre sur lequel il a eu lieu. Ce matin, le président français a dit avoir obtenu du russe qu'il n'y ait pas d'escalade.
Oui, j'ai obtenu le fait qu'il n'y ait pas de dégradation et d'escalade, nous a confié Emmanuel Macron dans la salle de réunion de l'Airbus présidentiel. À défaut d'avoir obtenu un geste d'apaisement, il se contente du statu quo. Pour moi, il s'agissait de bloquer le jeu. Ne croyons pas au miracle. Quel est son intérêt de nous dire « Vous m'êtes sympathique, vous me proposez rien, vous n'apportez aucune réponse à ce que je dis, je vais enlever 20 000 hommes ». Le président français reconnaît être toujours aussi inquiet, mais veut croire au dialogue ouvert hier. Il y aura encore beaucoup d'échanges à mener. Cela prend l'essentiel de mon temps ces jours-ci. Quid de sa candidature à la présidentielle, l'interroge-t-on à l'atterrissage. Va falloir y songer à un moment, admet-il. Là, il y a une tension forte, suffisamment forte, il ne faut pas faire de choses intempestives, il faut les faire au bon moment. Autrement dit, veuillez patienter, s'il vous plaît.
Maxence Lambrecq en Ukraine pour France Inter avec Frédéric Cayrou pour la liaison technique. Merci à tous les deux. Voilà pour la version française des choses en Russie hier. Qu'en dit-on côté russe ? Sylvain Tronchet, vous êtes le correspondant de France Inter à Moscou. Et chez vous, la lecture des événements montre un Vladimir Poutine plus menaçant que conciliant hier soir.
Hier soir, l'entourage d'Emmanuel Macron affirmait que le président français avait au moins arraché un petit quelque chose à Vladimir Poutine. Celui-ci se serait engagé à ne pas débuter de nouvelles manœuvres militaires aux frontières de l'Ukraine. Démenti ce matin du Kremlin, jamais Moscou n'a pris un tel engagement. Le Kremlin qui reste sur la ligne inflexible affichée par son chef hier soir. Vladimir Poutine a déroulé tous les griefs qu'il a contre l'OTAN et plus largement l'Occident. Il n'avait manifestement pas envie que l'on dise de lui qu'il était prêt à des concessions, surtout pas vis-à-vis de l'Ukraine, dont il a dénoncé le fait qu'elle ne respecte pas les accords de Minsk dans un langage viriliste dont il est coutumier.
Je pense qu'il n'y a pas d'autre alternative. À Kiev, ils disent qu'ils respecteront les accords de Minsk, et puis ils disent que cela va ruiner leur pays. Récemment, le président actuel a dit qu'il n'y avait rien qui allait dans les accords de Minsk. Mais que cela te plaise ou non, prends sur toi ma beauté. Il va falloir t'y plier.
Aucune concession donc. Néanmoins, Moscou se félicite ce matin des relations très constructive établie hier avec Emmanuel Macron. Vladimir Poutine ne serait également pas opposé à une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui déjeune précisément avec le président français ce midi. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Le tout alors que 6 navires de guerre russes sont en route vers la mer Noire pour participer à des manœuvres militaires. Elles seraient prévues de longue date, selon le gouvernement russe. L'Union européenne frappe la Pologne au porte-monnaie. Varsovie n'a pas fermé une mine de charbon nuisible pour l'environnement, malgré une décision de la Cour de justice de l'Union européenne en mai l'an dernier. Réaction de la Commission européenne, elle va prélever une amende sur les fonds européens destinés à la Pologne, montant total près de 15 millions d'euros. Varsovie va faire appel. La campagne présidentielle en France, à 2 mois des élections, ça ne démarre toujours pas pour Christiane Taubira. Semaine horribilis la semaine dernière pour l'ex-garde des Sceaux, malgré la légitimité qu'aurait pu lui conférer sa victoire à la primaire populaire. Ce matin, la candidate désignée par ses citoyens votants donnait une conférence de presse. Bonjour Antoine Gignot.
Bonjour.
Christiane Taubira compte sur l'écologie pour se relancer.
Elle parle désormais, oui, de transition écologique, la permaculture, les aides pour les agriculteurs, l'arrêt de la vente des voitures thermiques à horizon 2030 et la rénovation obligatoire des logements financés à 80% par l'État, par les ménages les moins aisés.
La transition écologique et solidaire n'est pas une offensive contre les personnes les plus modestes. Au contraire, c'est la transition écologique et solidaire qui peut améliorer leurs conditions de vie et par conséquent, cette transition écologique et solidaire n'est pas incompatible avec une politique de justice sociale ni une politique de lutte contre les inégalités.
Côté financement, Christiane Taubira veut une taxe sur les dividendes des entreprises, sur les véhicules polluants, une banque européenne du climat, un virage vert qui correspond aux discussions en cours avec les écologistes. L'ex-ministre de la Justice le confirme. Elle a participé dimanche soir à une réunion informelle avec les équipes de Yannick Jadot et elle continue d'appeler à l'union.
Je vois bien que le rassemblement sur le terrain, il est dynamique, il est tonique, il s'amplifie. Les comités, les associations, les citoyens, les élus eux-mêmes. Et puis il y a évidemment les partis politiques et les candidats. Mais moi, je vais continuer à parler à toutes celles et tous ceux qui veulent qu'on continue à parler.
Mais faute de réponse, faute d'interlocuteurs parmi les autres candidats, ce sont les nouveaux venus dans son équipe que Christiane Taubira met en avant. L'eurodéputé Pierre Larouturoux, le maire de Villetaneuse ou le vice-président du Grand Châtellerault dans la Vienne qui vient de démissionner du Parti Socialiste.
Antoine Gignot, service politique de France Inter avec les moyens techniques de Christophe Papon. Merci à vous deux. Une première de la part d'un président de la République. 60 ans après, Emmanuel Macron rend hommage aujourd'hui aux 9 victimes mortes au métro Charonne à Paris lors d'une manifestation pour la paix en Algérie le 8 février 1962. Mouvement violemment réprimé par la police sous l'autorité du préfet Maurice Papon. Le chef de l'État est le premier président à s'incliner devant les victimes de cette manifestation organisée à l'époque par les partis de gauche, en particulier le Parti communiste français. À droite, le candidat Éric Zemmour, visé par une plainte aujourd'hui, l'ex-polémiste a accusé hier sur France Inter les HLM d'être, je cite, « des terres d'islamisation du pays ». Stigmatisant et mensonger selon l'Union sociale pour l'habitat qui représente le mouvement HLM, Marianne Louis est la directrice générale de l'USH.
On franchit une étape qui est une étape de brutalité et de manque de véracité. Nous n'avons jamais prétendu que tout était absolument parfait dans le logement social ou dans les quartiers dits de la politique de la ville. Pour autant, nous refusons que l'ensemble de nos locataires, l'ensemble de nos collaborateurs soient ainsi attaqués. Immens. Les gens ont globalement une bonne image du logement social, ils pensent qu'il est indispensable. Pour pouvoir demander un logement social, il faut avoir un titre de séjour de longue durée ou être ressortissant de l'Union européenne ou évidemment français. Et c'est ça qui est constitutif de la base pour pouvoir demander un logement social. Tout le reste, c'est de la discrimination. Et donc à partir de là, si vous voulez, il y a tromperie, il y a mensonge, il y a dénigrement. Et puis surtout, il stigmatise, il attise la haine. Et ben nous, ça ne peut plus durer. Donc nous avons décidé de saisir le procureur de la République. Le logement et le logement social en particulier sont des objets de débat politique. Il y a toujours eu des débats gauche-droite. Mais on doit rester dans un cadre qui est un cadre de dialogue, de discussion de fond. Et sans doute pas dans la caricature et la violence.
Marianne Louis, directrice générale de l'USH, jointe par Claire Chaudière pour France Inter. Au chapitre justice encore, on retourne aux assises de l'Isère à Grenoble pour la suite du procès de Nordal Lelandais, cet ex-maître chien jugé pour agression sexuelle sur ses petites cousines et pour l'enlèvement, la séquestration et le meurtre de la petite Maëlys. Enlèvement qui a eu lieu lors d'un mariage en août 2017. Bonjour Mathilde Vinceneux.
Bonjour.
Vous suivez ce procès pour nous et ce sont les mariés que la Cour a entendus ce matin.
Oui, c'est un homme en colère qui se présente face à la Cour. J'ai fait rentrer le loup dans la bergerie à mon propre mariage, lâche-t-il à la barre. Lui, le cousin de Jennifer, la mère de Maëlys, il connaissait Nordal Lelandais depuis une vingtaine d'années. C'est l'accusé qui l'appelle quelques jours avant le mariage alors qu'il s'était perdu de vue et le marié l'invite à l'apéritif. Pour moi, il n'avait pas changé, il avait toute ma confiance. Le soir de la fête, il y a l'euphorie. Puis le cauchemar. Vers 3h du matin, quand on nous dit que Maëlys a disparu, on n'y croit pas, on se dit qu'elle est sous une table, qu'elle est en train de jouer. Jusqu'à ce que Jennifer me parle de l'un de mes copains qui lui a montré ses chiens, j'ai tout de suite pensé à Nordal. Pour lui, c'est la première alerte, il y en aura d'autres. Quand Lelandais quitte le mariage avant l'arrivée des gendarmes, et le lendemain, pas un coup de fil, se souvient le marié, il nous a dupés. On n'imaginait pas la noirceur de l'accusé, confirme la mariée juste après lui à la barre. Elle s'adresse à la cour. Il ne sera pas jugé pour tous ses crimes, pas pour tous les dommages collatéraux dont on fait partie, toutes ses vies brisées.
Mathilde Vinceneux en direct de la cour d'assises de l'Isère à Grenoble avec les moyens techniques de Georges Thau. Le tribunal correctionnel de Douai dans le Nord, lui, condamne à 1 an de prison ferme un policier, ancien chef de la brigade anticriminalité. Il avait volontairement roulé sur un mineur en septembre l'an dernier. Vous avez des fins de mois difficiles, envie tout de même de consommer, d'acheter. Une solution nouvelle, c'est le paiement fractionné. De plus en plus de Français y ont recours, 37% selon une étude Kantar dévoilée aujourd'hui. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
Alors qui utilise ce paiement fractionné et pourquoi ?
Alors l'exemple typique Marion, c'est votre lave-linge qui vous lâche, une dépense que vous n'aviez pas prévue. Le paiement en 3 fois son frais apparaît comme la solution. Les 2/3 des achats effectués ainsi sont à moins de 500 euros, essentiellement de l'électroménager, des produits high-tech, des meubles ou encore des voyages. Le principe, c'est donc d'étaler le paiement sur 90 jours maximum. Le souci, c'est en cas de non-paiement au bout de ces 3 mois. Là, le montant des pénalités peut être très élevé, entraînant le consommateur dans une situation difficile. Mathieu Robin, de l'UFC Que Choisir.
Il y a vraiment un risque de spirale de malendettement, de multiplier ce type de crédit sans être bien informé du coût et de leur risque. C'est évidemment le risque dans ce scare trop, celui de trop qui va vous faire basculer dans le malendettement. En plus de ça, évidemment, il y a un problème de concurrence, puisque comme on ne vous affiche pas clairement le coût de ces mini-crédits, on ne sait pas bien les comparer, savoir s'ils sont réellement attractifs ou non.
Alors pour les consommateurs, effectivement, le paiement fractionné apparaît comme une solution pour étaler ses dépenses et séduit de plus en plus Français et Européens d'ailleurs. 6 milliards d'euros dépensés l'an dernier dans l'Hexagone, le double prévu d'ici la fin de l'année. Un succès qui, insiste les associations de consommateurs, doit inciter le législateur à mieux encadrer cette pratique en vérifiant, par exemple, systématiquement la solvabilité des clients, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui.
Agnès Soubéran, service économie de France Inter. Allez, direction les pistes de ski chinoises. Première médaille d'or pour la France aux Jeux Olympiques de Pékin, enfin décrochée ce matin par Quentin Fillon-Maillet, c'était en biathlon individuel. Vous avez suivi l'épreuve pour France Inter. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Marion.
Beaucoup d'émotions à l'arrivée.
Oui, beaucoup d'émotions pour le Jurassien, d'ordinaire si réservé, un peu en retrait, à une personnalité pas trop expansive, mais évidemment, eh bien, ce qui s'est passé tout à l'heure sur cette piste de Zhangjiakou a changé un petit peu son destin, a changé sa carrière à celui qui irait numéro 1 mondial du classement général de la Coupe du Monde, mais qui là a complètement assuré son statut de patron en dominant notamment celui qui a été champion olympique il y a 4 ans, le Norvégien Johannes Bø. Beaucoup, beaucoup d'émotions en effet pour lui sur l'air d'arriver.
C'est juste incroyable. Imaginez que le petit garçon qui rêvait des Jeux Olympiques, il le touche pour de vrai. Là. Donc c'est juste incroyable. Aujourd'hui, avec deux fautes, j'imaginais pas gagner. Mais finalement, voilà, avec un super temps de ski, c'est juste incroyable. Un début des Jeux comme j'avais pas imaginé. Mais finalement, voilà, très très fier. Ça a été beaucoup, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail pour cette médaille. Et 4 ans auparavant, ça a été des jeux très compliqués, donc voilà, je tiens ma revanche.
Oui, revanche sur le destin, lui qui avait eu connu de gros problèmes personnels il y a 4 ans et qui donc revient ici en patron. Et surtout, Quentin Fillon-Maillet, pardon, qui a déjà eu l'argent lors du relais mixte samedi, l'or aujourd'hui, a encore beaucoup d'épreuves et il a un gros appétit évidemment. En tout cas, il a vraiment impressionné aujourd'hui en Chine.
Merci Jérôme Val avec Sandrine Malon pour la liaison technique. La France affiche donc 5 médailles au compteur, 4 en argent, 1 en or. Nous sommes 9e au tableau des médailles pour l'instant. On continue à suivre ces Jeux Olympiques sur Inter avec vous Jérôme et avec tous nos envoyés spéciaux à Pékin jusqu'au 20 février prochain. Et là, une fois n'est pas coutume, ce sont les pires qu'on récompense. Les Razzie Awards, palmarès satirique des pires films de l'année, ont annoncé leur nomination en bonne position donc. Diana's Musical, comédie musicale consacrée à la princesse et diffusée sur Netflix. La suite de Space Jam avec le basketteur star LeBron James. Et parmi les acteurs, surtout Bruce Willis, qui se voit dédier une catégorie entière intitulée « Pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021 ».
Oh, c'est très mauvais pour vous, ça.
Qui êtes-vous ?
Une mouche dans le lait, mon cher Hans. Un petit rouage qui grippe. Un emmerdeur.
Annonce des vainqueurs le 26 mars prochain, soit la veille des Oscars. À venir à 13h30, la question du temps de travail de retour dans le débat 2 mois avant la présidentielle. Faut-il passer à la semaine de 4 jours? Le Centre des jeunes dirigeants, en tout cas, y est favorable. On en parle avec son vice-président. Vos questions, vos témoignages, 01 45 24 7000. Mais d'abord, dans un instant, la météo.
Pour Arnaud, retrouver son souffle, ce n'est pas important, c'est essentiel. Pour son bien-être, bien sûr, mais aussi pour pouvoir continuer longtemps de rouler avec son club de vélo. Avec la médecine thermale, prenez naturellement soin de vous pour bien vivre aujourd'hui et pour mieux vivre demain. Trouvez votre cure thermale sur médecinethermale.fr. La médecine thermale, restez soi-même et pour longtemps.
Notre première rencontre, c'était sur la piste de danse, à une sortie Disons Demain.
Tu ne savais pas où placer tes mains.
Et tu m'as même écrasé le pied.
Tout le monde nous regardait.
Et moi, je ne voyais que toi.
Vous aussi, provoquez le destin et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans aux sorties Disons Demain. Liste disponible sur disonsdemain.fr.
Quel temps pour votre mardi 8 février ?
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Marion.
Après-midi nuageuse au nord de la Loire.
Oui, effectivement, ça va rester nuageux au nord de la Loire et jusque vers les frontières du nord en passant par la région parisienne. Des nuages aussi qui auront bien du mal à se dissiper du côté de la côte vendéenne. Puis partout ailleurs, le soleil sera au menu de votre après-midi apportant une ambiance presque printanière. Côté température, les maximales seront plutôt douces pour la saison, avec 10 degrés à Strasbourg, 11 à Cambrai et Mâcon. Prévoyez 12 dans la capitale comme à Tours et Mulhouse, 14 à Cognac, 15 à Tarbes, 16 à Bastia et Toulon, puis on ira jusqu'à 17 à Perpignan ainsi qu'à Marseille.
On a chaud, merci Jean-Pierre Hameau de Météo France, il est 13h29 sur Inter.
France Inter, le 13-14, Marion Loup.
Travailler 4 jours par semaine et non 5, ça vous fait rêver peut-être. Eh bien, ce rêve est en train de devenir réalité chez certains de nos voisins. Au Royaume-Uni, une cinquantaine d'entreprises vont tester ce nouveau rythme à partir de juin. En Espagne, l'expérimentation est déjà en cours. Ça existe déjà en Suède, en Islande, au Japon. Et ce sujet de la réduction du temps de travail s'invite maintenant dans la campagne présidentielle française. Mesure centrale du programme de l'écologiste Yannick Jadot, par exemple. Même les patrons n'y semblent pas opposés. Dernièrement, le PDG de Total Energy a dit regarder le sujet de près. Une journée, voire une demi-journée par semaine permettrait aux salariés de s'occuper de leurs tâches personnelles pour que le reste de la semaine soit dédié à leur mission professionnelle, argumente Patrick Pouyanné. On en est loin. Aujourd'hui, les Français travaillent en moyenne 37h30 par semaine. Alors, cette semaine de 4 jours serait-elle une bonne idée? Comment pourrait-elle se mettre en place? On en parle avec Julien Leclerc, vice-président du Centre des jeunes dirigeants, invité du 13-14 de France Inter aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Alors, on va peut-être juste s'entendre pour commencer sur qu'est-ce que c'est que cette semaine de 4 jours? Est-ce que ça veut dire travailler moins pour gagner autant? Pour gagner moins, travailler autant mais sur moins de jours? Qu'est-ce que c'est?
Merci pour ce préambule. Effectivement, nous, on est au Centre des jeunes dirigeants, on est favorable à la semaine de 4 jours, à une expérimentation massive de la semaine de 4 jours. Vous l'avez dit, beaucoup de pays y sont. On n'est pas favorable à une baisse du temps de travail. Il s'agit de réorganiser sa semaine différemment.
Donc éventuellement 35 heures, mais sur 4 jours.
35 heures, mais sur 4 jours. Et on s'aperçoit que c'est finalement pas si compliqué que ça à faire dans tout un tas de métiers. Dans d'autres, ça demande pas mal de préparation. Et les bénéfices semblent assez importants sur les premiers retours d'expérimentation qu'on a en tout cas.
Alors ça, c'est votre version de la semaine de 4 jours au Centre des jeunes dirigeants. La semaine de 4 jours, ça existe déjà aussi dans certaines entreprises françaises. Avec nous au téléphone, le président du groupe informatique lyonnais LDLC, Laurent de la Clergerie. Bonjour.
Bonjour Marion.
Alors chez vous, vous avez mis en place aussi la semaine de 4 jours. Ça prend quelle forme?
Alors chez nous, effectivement, on a mis en place la semaine de 4 jours depuis un an sur 4 journées de 8 heures, soit 32 heures qui sont toujours payées 35, bien sûr.
Et alors ça a quel effet aujourd'hui?
Alors un an plus tard, la surprise qu'on a eue, c'est qu'en fait, on n'a pas eu besoin d'embaucher. Parce que dans les faits, les gens, malgré le fait qu'ils travaillent un peu moins, sont aussi efficaces qu'avant, ce qui n'était pas du tout anticipé.
Donc ce que vous nous dites, vous, c'est travailler moins, mais avec une meilleure productivité.
Bah, c'est ce qu'on constate au final, un an plus tard, oui.
Paris gagné, vous diriez?
Paris gagné, oui, totalement gagné, puisque bah, les gens sont bien, enfin les équipes sont super bien, il y a un bien-être dans la boîte que j'avais jamais connu, donc oui, un vrai Paris gagné.
Ça n'ajoute pas une forme de stress pour les salariés qui sont obligés, forcés d'être plus productifs du coup?
Alors non, parce qu'ils n'ont jamais été obligés, j'avais vraiment prévu de recruter le jour où j'avais décidé de diminuer le nombre d'heures, ça s'est fait totalement naturellement, et au contraire, ce qui est impressionnant, c'est que effectivement ils font le travail en moins de temps, mais ils le font en finissant la semaine avec le sourire et sans se dire, j'allais dire sur 4 jours, vivement jeudi soir, mais c'est pas tous le vendredi. Mais oui, globalement, ils sont tous heureux à la fin de la semaine, quel que soit le malgré le fait qu'ils aient fait ce travail en moins de temps.
Et vous êtes donc le premier dirigeant français d'un groupe aussi important à avoir opté pour la semaine de 4 jours. 32 heures, payées 35. Alors, Julien Leclerc, on voit qu'il y a plusieurs versions du coup de la semaine de 4 jours. C'est vrai qu'Elisabeth Borne, quand elle parle de, je dirais, votre semaine de 4 jours, la ministre du Travail, elle dit, voilà, ça peut être une source de stress pour les salariés de devoir faire, par exemple, 35 heures en 4 jours.
Si c'est pas anticipé, tout à fait. Si demain, on vous dit que la rédaction de France Inter, vous devez passer le mois prochain la semaine de 4 jours, c'est panique totale et on va juste générer du stress. Donc tout ça s'anticipe. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce qu'on vient d'entendre, c'est que forcément, c'est discuter avec le collaborateur, donc ça renforce le dialogue social. Et quand on se pose autour d'une table, qu'on réfléchit ensemble à comment on peut mieux organiser notre quotidien, c'est que bénéfique ce qui arrive. Nous, si on n'est pas sur ce sujet des 32 heures, c'est que si vous arrivez aujourd'hui, et c'est là qu'il faut faire attention aux promesses des politiques pour voir dans le détail comment ça s'articule. Si vous arrivez, vous imposez un nouveau temps de travail plus réduit à tout le monde sans distinction, on va se retrouver sur le bazar qu'il y a eu sur les 35 heures, où accessoirement, ceux qui avaient fait les promesses et pris les décisions ont été ceux qui ont plus de mal à l'appliquer. L'État a quand même été le dernier à réussir à appliquer correctement les 35 heures dans les services qu'il gère. Donc on reste
elles,
sur...
Elles ne sont toujours pas appliquées d'ailleurs dans certains services de l'État.
Elles ne sont pas appliquées, il y a beaucoup d'heures
de...
sues, parfois qui ne sont pas payées, etc. On le sait. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de remettre le bazar, il s'agit de dire on doit absolument réfléchir à de nouvelles formes de travail parce qu'il y a énormément de métiers qui sont en tension. Donc on s'interroge sur la désirabilité de nos métiers et nos entreprises. Comment on peut être plus attirant? Le dirigeant qu'on vient d'entendre, quand il est sur France Inter
Laurent
en train de dire qu'il fait la
remercie,
semaine de 4 jours, forcément sa boîte elle donne envie, donc il a peut-être moins de problématiques pour recruter que d'autres. Donc on doit s'interroger, on doit réfléchir. Nous on veut pas imposer un cadre qui s'imposerait à toutes les entreprises, et il y a quand même certaines boîtes, je pense à l'industrie etc, où ils pourraient pas l'appliquer exactement de la même façon que lui, parce que quand vous faites 32 au lieu de 35, il faut organiser les rotations. Mais on se doit de réfléchir, et en revanche les retours d'expérimentation qu'on a pour le moment sont très en phase avec ce que Laurent de la Clergerie vient nous expliquer. Il y a plein de bénéfices.
Vous avez l'impression qu'il y a une demande alors de la part de vos entreprises adhérentes, vous représentez un peu plus de 5000 entreprises, qui est peut-être accrue depuis la crise Covid, le télétravail, etc.
Oui, pour ces raisons-là. Alors il y a des expérimentations chez nous déjà, donc on s'appuie pour dire ça sur les premiers retours d'expérience. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des expérimentations dans des métiers très différents. On a des adhérents qui l'ont expérimenté dans l'industrie, dans des entreprises de services, dans la restauration, etc. Donc on voit les écueils chez les uns chez les autres, mais on voit quand même qu'il y a une unité de retour. C'est que globalement, les retours en termes de fierté d'appartenance, de sens au travail, etc., d'engagement des salariés dans d'autres choses que leur entreprise, tout ça semble très positif. Donc nous, on a envie de creuser. Là où il y a une grande dynamique, c'est que, je vous le redis, les métiers sont quand même très en tension. Donc tout le monde s'interroge aujourd'hui sur comment je peux me transformer pour attirer plus, attirer mieux, fidéliser, mieux recruter, etc. Et que la semaine de 4 jours est un levier majeur.
Donc là, vous parlez d'une demande de la part des dirigeants, éventuellement des salariés. Est-ce que ça peut conduire à une création d'emplois? Le patron d'LDLC qu'on entendait tout à l'heure disait que chez lui, non, pas de création d'emplois à la clé.
Oui, il l'a pas fait. Maintenant, si ses salariés sont plus heureux et impliqués dans le projet de l'entreprise, etc., il va développer son chiffre, développer son activité. Et donc, on est dans un cercle vertueux. À partir du moment où on est dans un cercle vertueux, oui, on va développer de l'emploi. Et au-delà de l'emploi, c'est aussi la fierté et le sens. Aujourd'hui, plus que jamais, il y a un besoin de sens dans le travail. Il y a aussi une aspiration assez nouvelle, ça c'est le Covid, de liberté qu'on ressent au quotidien. Vous savez, tous les jours, on est confronté à ces sujets-là en tant que dirigeant et manager. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on est toujours en train de chercher en se disant quels sont les leviers de fierté, de sentiment d'appartenance, de réponse à ce besoin de sens et puis à cette aspiration de liberté qui est très entrepreneuriale et qu'on ressent dans tous les métiers.
Alors, vous disiez tout à l'heure, ça ne se met pas en place partout pareil, dans l'industrie, dans les services, etc. Quelles sont les entreprises, par exemple, est-ce qu'il existe des entreprises où ça ne peut pas se mettre en place?
Je vais vous parler, moi, en tout cas, de mon exemple perso. Moi, j'ai plusieurs entreprises. Il se trouve que j'ai un resto. Paradoxalement, dans le restaurant, c'est un peu plus facile parce qu'il y a des rotations et que le client, que ce soit un serveur ou une serveuse ou une autre, ou un autre, c'est pas très grave, tant qu'on arrive à assurer le fait qu'on est ouvert et qu'il y ait du monde pour le servir. Donc finalement, je peux assez facilement changer les horaires et faire en sorte que les personnes aient 3 jours de week-end. J'ai une agence de service aux entreprises, c'est beaucoup plus long à mettre en place, donc on commence à réfléchir, mais je vais avoir un appel du CSE demain matin.
Mais des syndicats.
C'est plus long parce que si demain je leur dis on passe la semaine de 4 jours, on va générer du stress parce que mes clients vont pas comprendre, mes fournisseurs vont pas comprendre, et là les salariés vont se dire là, faut absolument que je termine dans ce temps donné. Et donc tout ça s'anticipe ensemble.
Donc c'est une question de dialogue social. Est-ce que l'État doit quand même donner l'impulsion, le gouvernement peut-être?
Notre conviction, c'est que l'État doit mettre des mesures incitatives pour pousser à ces expérimentations-là. Donc oui, sur des allègements de charges par exemple, alléger les charges ou les cotisations pour les entreprises qui passeraient sur ce type de dispositif sur la semaine de 4 jours. Comme on pense aussi que l'État doit absolument encourager par des mesures incitatives les entreprises qui sont en transition d'une manière générale, plus vertueuses de l'environnement, etc., qui sont en train de mettre des choses en place pour être plus vertueuses demain.
Alors, on va passer peut-être en revue un peu les différentes propositions des différents candidats à la présidentielle. Par exemple, on a un écologiste qui, pour une fois, salue une idée de Total et du pétrolier. Ouf. Total. C'est Yannick Jadot qui dit c'est le sens de l'histoire de réduire le temps de travail. Alors lui, il est plutôt favorable à ça, mais il faut l'adapter. Il dit qu'il faut laisser le choix, donc quand prendre ses repos, y compris tout rassembler, finalement, au lieu de faire vraiment une semaine de 4 jours, tout rassembler sur un repos longue durée, selon un peu les besoins de chaque salarié. Qu'est-ce que vous en pensez?
Pourquoi pas? Encore une fois, que l'État donne une impulsion positive, oui. que l'État vienne imposer un cadre trop contraignant, non, parce que de toute façon, je suis pas juste un patron en train de dire laissez-nous tranquille, mais de toute façon,
c'est
quand
ce qu'on
fait
un petit peu.
Ouais, mais je comprends, c'est un peu caricatural, mais en fait, non, nous, on a hyper envie d'aller vers le monde de demain, dont on appelle de nos voeux, et d'expérimenter plein de choses sans œillères. Maintenant, on sait très bien qu'à chaque fois qu'on impose un cadre, comment vous pouvez gérer et imposer le même cadre à l'hôpital qu'à la rédaction de France Inter, qu'à un restaurant ou qu'à une boîte qui fait des clous? C'est pas possible. Donc, on impulse quelque chose, oui, qu'on laisse la liberté.
Enfin, finalement,
ensuite,
les 35 heures, on a réussi à les mettre en place un peu partout, ouais, ou presque.
On en parle avec des aménagements quelques décennies de retard, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a quand même des secteurs, et notamment encore une fois en premier lieu dans les services publics, où c'est très compliqué. Donc, que les gens aient du temps pour faire d'autres choses, des projets à eux, s'engager pour la société, l'intérêt général, des projets associatifs, s'occuper de leur famille, être chez eux, se reposer, c'est bien. On est très favorable à ça, parce qu'on est convaincu de ce que Laurent de la Clergerie vient de nous expliquer, c'est qu'en plus, finalement, même les entreprises, même si j'avais un discours purement capitaliste, les entreprises sont gagnantes parce que la productivité est meilleure. Je rappelle qu'on est en France, dans un pays où les salariés sont les plus productifs du monde. Donc on est favorable à ça. Maintenant, c'est quand il dit il faut faire comme ça. Non, d'abord les salariés, il y en a qui préféreront avoir leur mercredi et leur week-end qu'un week-end de 3 jours. Et ensuite, il y a des entreprises qui pourront le faire et d'autres non.
Et alors, je continue le tour d'horizon des propositions. À la gauche de la gauche, on dit plutôt réduction du temps de travail, 32 heures pour Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, 28 heures pour Philippe Poutou au NPA. Laurent de la Clergerie nous disait que lui, il était descendu à 32 heures. Pourquoi vous tenez absolument à rester à 35 si 32 permettent d'améliorer la productivité?
Je pense qu'il faut expérimenter. Et puis s'il y a des entreprises qui disent, mais finalement, moi à 32, je m'en sors très bien et c'est beaucoup mieux, allez-y. Si demain, moi, je passe à 32 heures dans mon restaurant, ça veut dire payer autant. C'est-à-dire que j'ai pas l'argent, on est quand même sur des métiers où les marges sont très réduites, hein, c'est 5-6% en moyenne. J'ai pas l'argent pour recruter plus, ça veut dire qu'il faut que je ferme. Donc il y a des métiers pour lesquels ce sera pas adapté de baisser le temps de travail. Je pense qu'il faut laisser la liberté aux entreprises. En revanche, nous ce qu'on veut absolument, c'est qu'il y a une idée qui semble très bonne, qui semble très favorable, gagnante-gagnante pour tout le monde. Dans l'air du temps, je suis d'accord avec Yannick Jadot là-dessus, allons expérimenter. Et pour qu'il y ait une expérimentation de masse comme c'est en train de se passer, vous l'avez dit en préambule, en Espagne, au Royaume-Uni et dans d'autres pays, il faut qu'il y ait des mesures incitatives de la part de l'État. Donc, je suis ravi que les candidats à présidentiel s'en saisissent. Si on peut éviter la surenchère de chiffres qui ne veulent rien dire, ça sera pas mal aussi.
En tout cas, vous n'êtes pas dans le travailler plus pour gagner plus, qui est encore aujourd'hui ce que propose la droite, notamment Valérie Pécresse.
C'est le sujet, en fait, c'est le problème avec ces sujets-là quand on les politise avec une réflexion partisane. Il y a aujourd'hui un marché de l'emploi qui est extrêmement en tension. Les gens de gauche disent c'est normal, les patrons payent une misère. Donc forcément, ils ne trouvent pas. Les gens de droite disent c'est normal, il n'y a personne qui veut bosser dans ce pays. Donc en fait, tout le monde a un peu raison, tout le monde a un peu tort. Je pense qu'il faut qu'on regarde ces sujets-là sans œillères, qu'on s'interroge. Donc oui, il y a sûrement des choses à faire du côté du travailler plus, mais il y a aussi beaucoup de choses à faire sur nos remises en question, sur comment on s'adapte, comment on se transforme, comment on est agile et comment on attire.
On comprend hein, que dans l'optique du dirigeant de Total Energy, par exemple, dans la vôtre aussi, et y compris dans celle du patron d'LDLC, il s'agit de donner un bien-être aux salariés qui leur permettront aussi d'augmenter leur productivité. Comment est-ce qu'on accompagne tout ça au-delà des incitations fiscales? Est-ce que il y a d'autres aménagements à apporter, y compris de la part des dirigeants d'entreprise?
Il y a beaucoup de dialogue, beaucoup de communication, parce qu'encore une fois, il faut associer toutes les parties prenantes, parce que si tout d'un coup vos auditeurs vous entendent plus tous les vendredis, ou si vos clients essayent de vous joindre et que vous n'êtes pas joignable à l'heure où en plus il y a beaucoup de télétravail et où ils ont tous vos numéros perso et vos mails perso, on va pas créer du bien-être, on va faire l'inverse. Donc c'est de la préparation, c'est se mettre autour d'une table et dire voilà tous les écueils. C'est là que l'expérimentation a du sens. C'est aussi, plus on aura de retours de terrain, plus on pourra voir les écueils, les régler, trouver des solutions, à la fois dans nos entreprises et puis grâce aux témoignages des autres entreprises. C'est beaucoup de dialogue, beaucoup d'appréhension, une nouvelle organisation. Et pour ça, il faut qu'il y ait une envie commune, parce qu'il y a aussi des salariés. Moi, si demain je leur dis on va le faire, j'ai des salariés qui vont me dire mais moi ça m'intéresse pas du tout.
Et vous les écouterez?
On va essayer de les convaincre, mais bien sûr qu'on écoute, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Et peut-être que les écueils qu'ils voient, moi je les ai pas vus, et c'est peut-être eux qui ont raison.
Alors rapidement, Julien Leclerc, le CJD a parmi ses priorités la question du temps de travail. Est-ce qu'il y en a une ou deux autres que vous pouvez citer rapidement, puisque notre entretien touche à sa fin?
On voudrait absolument accélérer le mentorat. Il y a un énorme sujet d'égalité aujourd'hui. Les femmes n'ont pas accès au comité de direction, notamment des grandes entreprises. Donc c'est hyper clé pour nous de les encourager à lever les écueils là aussi et les freins qui font qu'elles n'arrivent pas à accéder à ces postes-là. On voudrait accélérer pour rester sur le sujet du du temps de travail et de la semaine de 4 jours, il y a quand même un sujet soulevé notamment par la gauche, du partage de compétences. On peut mettre des choses incitatives sur le partage de compétences.
Et vous allez nous dire tout ça dans un livret blanc de propositions à l'attention des candidats à la présidentielle qui sera présenté la semaine prochaine. Julien Leclerc, vice-président du Centre des jeunes dirigeants, merci de nous avoir répondu sur France Inter.
Merci à vous.
France Inter, le 13-14.
La suite du 13-14 à 13h44 sur France Inter. Notre feuilleton avec Simon, qui est un électeur abstentionniste et qui nous dira pourquoi il ne compte toujours pas voter à la présidentielle. Le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Marion.
Au programme aujourd'hui.
La première élection du président au suffrage universel vue par le malheureux candidat Lamartine.
Mais tout de suite, c'est une chanson. Bonjour Frédéric Pommier.
Bonjour Marion.
Vous êtes aujourd'hui avec la comédienne franco-belge Marianne Bassler qui vous parle de sa chanson aujourd'hui. On peut la retrouver en ce moment au théâtre de l'Atelier dans Huis Clos de Jean-Paul Sartre.
Une pièce créée en 1944 mais dont le propos n'a rien perdu de sa pertinence. C'est ce que nous faisons de nos vies qui détermine ce que nous sommes. Et il est également question de ce que l'on fait de sa vie. Dans le titre dont Marianne Bassler m'a parlé, un titre de Queen qu'elle a vu en concert quand elle était ado dans une salle à Bruxelles et qu'elle a redécouvert il y a quelques années.
J'avais écrit un scénario à l'atelier d'écriture de la Fémis et j'ai cherché une chanson pour la fin qui se passe fin des années 70. Et j'en ai parlé à mon fils qui me dit « Mais don't stop me now ». Et je lui dis « Fais-moi réécouter cette chanson ». C'était extraordinaire parce que ça collait exactement au récit, c'était pour le final. Et ça parlait du personnage d'un jeune homme que j'avais écrit. Et puis je me suis souvenue de ma propre histoire, mon frère qui m'emmenait à Forêt Nationale dans les années 70, où passait Queen, mais m'avait emmené aussi voir Slade, plein de groupes de l'époque. Et donc j'ai baigné là-dedans, tout en étant la petite sœur qui suivait son grand frère. C'était mon frère que ça passionnait.
Là, vous aviez quel âge à peu près ?
J'avais 15 ans. Et moi, qui étais obsédée déjà par le théâtre, par la littérature, je pense que je suis un peu passée à côté de cette histoire-là de ma jeunesse, la musique. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Et cette chanson, Frédéric, est extraite de Jazz, le 7e album de Queen. Et
c'est une invitation à profiter de la vie, ainsi que le faisait d'ailleurs Freddie Mercury. Mmh. Quant à Marianne Bassler, elle a désormais conscience que c'est un privilège de l'avoir vue sur scène.
Quand je revois ces images aujourd'hui, c'était extraordinaire. Une effervescence des gens debout, des musiciens mais déchaînés sur scène. C'était d'immenses danseurs et d'immenses chanteurs, Freddie Mercury et son équipe. Et petit à petit, j'ai vraiment redécouvert cette musique aussi. Je me suis dit qu'on a eu une chance folle. Et puis surtout, ça m'a parlé de plus en plus de ce frère dont je comprenais pas peut-être cette partie-là de son histoire. Et les paroles de cette chanson, « Don't stop me now », m'y font violemment penser. Et ce sont les paroles, les seules que j'ai été capable de dire et qui me sont venues sur sa tombe il y a un an.
De quelle manière elle vous parle de votre frère ?
Je crois qu'elle raconte le destin de ces jeunes garçons qui avaient 20 ans dans le courant des années 70, qui devaient quelque part perpétuer une certaine forme de force et qui avaient la tête dans les étoiles. Et quand je revois la liberté qui se dégage de ces chanteurs, je comprends la joie, l'envie de vivre. Mon frère, il y avait ça, une joie immense, mais qui a peut-être été étouffé parce qu'il fallait rentrer dans un carcan et qu'il y avait peut-être une plus grande pression sur eux que sur nous. Parfois, c'est vrai que pour les femmes, ça a été très difficile, mais les hommes, il y avait une attente qu'il n'y avait pas sur nous. Donc cette liberté, moi, je l'avais. Et lui, il fallait qu'il réalise les rêves des pères, les rêves des mères. Et je pense que ça a écrasé pas mal de jeunes hommes. Enfin, c'est pour ça que j'ai lu ses paroles sur sa tombe. « Don't stop me now ».
Don't Stop Me Now de Queen. C'était donc Frédéric, le choix de la comédienne Marianne Bassler.
Actuellement au théâtre de l'Atelier à Paris, dans Huis Clos de Sartre. La mise en scène est signée Jean-Louis Benoît.
On ne l'arrête pas non plus. Frédéric Pommier revient demain.
À demain.
À 13h49 sur Inter, suite de notre feuilleton récurrent cette année et jusqu'en avril, 5 Français dans la campagne présidentielle. Aujourd'hui, on retrouve Simon, 28 ans, demandeur d'emploi à Colmar dans le Haut-Rhin et bénévole chez ATD Carmonde. Simon a toujours voté blanc, pas sûr que ça change cette année. Il confie ses impressions à Simon le Baron.
Salut Simon, je suis en bas. Merci. Salut Simon.
Ça va ?
Ça va, ça va.
La dernière fois qu'on s'est vu début décembre, on parlait d'un éventuel miracle pour que tu t'intéresses à la campagne présidentielle. Est-ce que le miracle a eu lieu ?
Alors là, le manque de peau, c'est vraiment que je suis tellement occupé que... Le peu de temps que j'ai, je ne m'implique pas à regarder de la politique. Les gens préfèrent s'occuper de leur vie. Et je pense qu'ils cherchent juste à avoir une vie correcte, c'est tout.
Bonjour.
Je vous présente
Céline. Enchantée Céline. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous.
Mais de rien, c'est un plaisir.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Alors, je suis éducatrice. J'accompagne des personnes en situation de handicap mental.
Je peux demander ton âge aussi ?
23 ans.
On s'est déjà rencontré 2 fois avec Simon. C'est la première fois qu'on se rencontre, nous. Si tu devais résumer ton point de vue sur cette campagne présidentielle, est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que ça te passe au-dessus de la tête ? Voilà, qu'est-ce que tu en penses ?
Clairement, je m'en fous. Non, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse. J'ai dû voter une fois à mes 18 ans pour voir ce que ça fait de voter.
Pour qui ?
Alors, j'ai été fortement influencée par mes parents. Mais c'était pour Mélenchon. Donc moi, je suis fille d'un quartier populaire dans les Vosges, à Saint-Dié. Et voilà, mes parents sont fortement de gauche. Mais même eux, ils s'intéressent pas tellement à la politique. Enfin, c'est vraiment pas un truc qu'on discute autour de la table.
Tu revoterais pas pour Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ?
Mais non, parce que je m'y intéresse pas, je sais pas ce qu'il fait. Vraiment, c'est pas du tout un sujet auquel je m'intéresse. À la limite, je voterais blanc. Si j'avais la conviction que tous les Français, on est solidaires et on sait que au-dessus, c'est la merde, clairement, et qu'on voterait tous blanc pour leur dire « allez, voilà », ouais, là, j'irais voter vraiment. En me disant peut-être que là, ils vont se rendre compte. Là, il y a quelque chose qui bloque et on doit faire quelque chose.
On a déjà beaucoup évoqué cette question avec Simon, Céline. Est-ce que toi, il y a vraiment un sujet qui pourrait t'intéresser, hein, quelque chose de concret, qui pourrait faire que tu portes attention à cette élection ?
Aider les personnes qui sont dans le besoin. Donc je suis aussi partie d'ATD en tant que bénévole. Et peut-être que si on se penchait vers ces gens-là, ben, c'est intéressant aussi d'écouter ce qu'ils ont à dire.
Je pense à Zemmour en fait et sa sortie sur le handicap. On aurait dit un petit garçon qui essaie de se justifier d'un truc qu'il connaît même pas. Et c'était vraiment très très drôle.
Quand il a dit que les enfants handicapés devraient être dans des établissements spécialisés et pas dans les écoles avec les autres élèves.
Le sujet du handicap, c'est un sujet qui est vraiment... vraiment compliqué. Donc si tu viens, faut que tu viennes préparer, pas juste en disant je pense que peut-être. Tu penses rien. Tais-toi en fait. Tu sais pas de quoi tu parles. Dès qu'on sort un peu de son sujet, ça y est, c'est un peu la bérésina. Comment des gens comme ça peuvent prétendre être président ?
Pour expliquer cette campagne qui n'intéresse pas les Français, les adversaires d'Emmanuel Macron disent « mais c'est de sa faute, c'est parce que le président, lui, il fait semblant de ne pas être en campagne et tout le monde sait qu'il sera candidat, mais il n'est pas officiellement déclaré. Est-ce que ça changerait quelque chose pour vous ?»
Bah non, ça changerait quoi ? Reviens, écoute, hein, essaye, hein, fais ce que tu veux.
Là, il reste une soixantaine de jours, 2 mois avant le premier tour. On reste sur le même constat que la dernière fois, Simon et Céline, maintenant, il n'y a aucune chance qu'un candidat vous séduise et que vous votiez pour lui ou pour elle au premier tour. Toi, Simon, j'ai l'impression que c'est pas si clair que ça.
Bah, ça sera au dernier moment que je me déciderai. Très souvent, quand je vote au premier tour, c'est pour donner une voix à des gens qui en ont peu. C'est tout. Donc, je sais pas. Je sais pas du tout.
Moi, je ne voterai pas, c'est sûr. Comme je disais, je vois pas l'intérêt.
5 Français dans la campagne présidentielle avec Simon et sa compagne aujourd'hui. Épisode signé Simon Le Baron et réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter. Le 13-14.
Politique encore avec le vif de l'histoire aujourd'hui et la première élection présidentielle au suffrage universel. Retour en arrière, Jean Lebrun. En septembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte entre en catimini par la porte de service de l'Assemblée nationale constituante. Il vient d'être élu à la faveur de partiels dans 4 départements à la fois. Il ne voudrait pas être l'objet d'acclamations de la part de la foule massée au dehors. Inutile d'inquiéter trop vite ses nouveaux collègues.
Ainsi commence un chapitre du livre de Sylvie Hiver qui a imaginé de rédiger les mémoires que Madame de Lamartine aurait pu écrire sur sa vie aux côtés de son grand homme de mari. Vous m'avez suivi, hein?
Oui.
Ça s'appelle au moins le souvenir. En septembre 48, donc, la Deuxième République est bien fragile. Elle a remplacé la monarchie de Juillet en février. Mais ses voiles toutes gonflées de discours sur la liberté et la fraternité, elle a échoué sur le récif de l'égalité, écrasant dans le sang les émeutes populaires en juin. Le gouvernement provisoire n'y a pas survécu, ni la grande popularité de Lamartine, qui le dominait de toute sa stature, et depuis c'est un dictateur à la romaine, le général Cavaignac, qui dirige en attendant que l'Assemblée achève la rédaction de la Constitution.
Et dès la fin juin, le premier projet était prêt, il prévoyait un chef de l'État qui fût un président élu, mais élu comment, Jean ?
Alors dans le livre de Sylvie Hiver, on voit Madame de Lamartine courir assister au discours sur le sujet de son champion. Il faut bien dire qu'Alphonse, le grand poète, se prend un peu les pieds dans le tapis. Il assure d'un même mouvement que la présidence ne peut être seulement la résultante d'un vote de l'Assemblée, mais en même temps, ajoute-t-il, elle devra être modeste. Alors comment le rester quand elle sera la seule autorité qui émane de tout le pays ? Lamartine, par principe, est confiant dans l'humanité. Selon lui, l'ambition d'un seul peut empoisonner un verre, pas le grand fleuve du suffrage universel. C'est le suffrage universel direct qui va être choisi pour l'élection du président.
Oui, mais il y a en 1848 ce Bonaparte, le fils de la reine Hortense, le neveu de l'empereur qui vient de surgir. N'est-il pas dangereux ?
Alors, sa première intervention à l'Assemblée a été suivie avec attention pas bien longtemps. Madame de Lamartine, toujours selon Sylvie Hiver, note comment les autres assistants, au lieu de dire République, voient que Louis-Napoléon Bonaparte prononce ripipique. Ben oui, il parle français comme un Allemand, et d'ailleurs, pareillement, allemand comme un Suisse, anglais comme un Français, etc. Il a vécu en perpétuel exilé, il n'est apparu au devant de la scène que pour 2 tentatives de pronunciamento ridicules. Dans la deuxième, il s'était fait accompagner par un aigle déplumé qu'il avait acheté sur le marché aux oiseaux de Londres, pensant que cela l'aiderait à prendre pied dans le port de Boulogne. Il a été arrêté. Ce jour d'automne 1848, bien après, les curieux cessent vite d'écouter l'homme qui discourt encore un moment, puis se rassoit à sa place, lissant le bout de ses moustaches, fixé par de la cire, vous savez, comme aimaient le faire les généraux de l'armée d'Afrique. On ne fit bientôt plus attention à sa longue figure éteinte avec ses yeux à demi-clos de poisson cuit.
Quel portrait ! L'élection du premier président au suffrage universel direct est programmée pour décembre 1848.
Et Lamartine se porte candidat, un peu par habitude, sans faire campagne, sinon en prenant un jour la parole depuis le perron de sa maison, appuyé sur sa balustrade rouillée. Pour lui, le candidat élu par les événements, c'est Cavaignac, qui répond à la demande d'ordre exprimée pendant les journées insurrectionnelles de juin. La gauche a en vain demandé que l'accès à la candidature soit interdit aux membres des anciennes maisons princières. Encore un peu, on aurait pu voir se présenter le prince de Joinville, un fils de Louis-Philippe. Mais il suffisait de Louis-Napoléon Bonaparte. Son programme était évanescent, mais auteur naguère d'un essai sur l'extinction du paupérisme, il faisait rêver les Français modestes bien plus que l'immobilisme social de Cavaignac.
Et le résultat fut sans appel.
5,5 millions de voix pour Louis-Napoléon. 4 fois moins pour Cavaignac, pour Ledru Rollin, le premier candidat de la gauche. 4 fois moins que pour Cavaignac. Et pour Lamartine, 18 000. La fin de vie du poète dans la gêne matérielle ne lui permettra jamais une remontada. Les adversaires du prince alors veulent se consoler en se disant qu'il n'appartient pas à l'espèce des voulants, qu'il lui faut des heures à tirer sur sa cigarette enveloppée de fumée avant de prendre une décision. Mais, 3 ans plus tard, avant la fin de son mandat non renouvelable de 4 ans, c'est le coup d'État de décembre 51. Légitimité populaire associée à mandat trop court, c'est porteur d'orage.
Jean Lebrun, lui aussi, auréolé de la légitimité populaire. Merci à vous. Vous nous parliez du livre de Sylvie Hiver, au moins le souvenir, édition Héloïse d'Ormesson. Dans quelques instants, sur Inter, la Terre au carré. Bonjour Daniel Fievé.
Bonjour Marion.
La campagne s'invite en ville aujourd'hui.
Oui, savez-vous planter les choux en ville? On s'intéresse à l'agriculture urbaine cet après-midi.
Je ne vous le chanterai pas, mais on reste à l'écoute.